suis en compagnie de Sébastien Lasserre. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Tu fais partie de l'équipe de Jeanne Douce Cinéma, hein. Tu es co-directeur de Jeanne Douce Cinéma. Et on va parler aujourd'hui de ces 37e rencontres cinéma de Jeanne Douce qui vont se dérouler très prochainement du 21 au 28 août. Et je suis en compagnie de Loïc aussi pour faire cette interview.
Salut.
Alors, déjà, on se demande, hein, après une année de silence, qu'est-ce qu'on ressent là, comme ça, à quelques jours de l'ouverture de ces 37e rencontres cinéma?
Une année de silence, disons que nous, l'an dernier, finalement, on avait fait une journée, on avait fait 24 heures pour marquer le coup, pour qu'il y ait quand même des films présentés à Jeanne Douce, pour qu'on puisse se retrouver autour d'une programmation. C'était le 22 août l'an dernier, donc c'est vrai que néanmoins cette année, on retrouve un festival sous sa forme connue, huit jours de 8 jours de films avec notre programmation entre guillemets habituelle, une invitée d'honneur, nos vagabondages, une sélection patrimoine. Donc, bien entendu, oui, on est heureux de pouvoir retrouver nos rencontres telles qu'on les connaît, même si l'état d'esprit reste néanmoins un petit peu particulier dans ce contexte inédit.
Oui. Alors, il y a les rencontres cinéma, après il y a aussi les autres activités hein, de Jeanne Douce Cinéma. Comment ça s'est passé aussi cette année en contexte sanitaire, hein, pour les accueils de tournage? Est-ce que la production de films a connu une pause?
La production de films, elle n'a pas vraiment connu de pause. Ensuite, nous, au niveau de l'accueil de tournage Jeanne Douce Cinéma, on s'occupe désormais de deux départements, le Lot et le Tarn-et-Garonne. Ce ne sont pas, reconnaissons-le, les départements dans lesquels... on tourne le plus. Donc, je dirais que d'une manière générale, nos activités n'étant pas des activités commerciales, et dans le fond, on a pu toutes les maintenir. Alors, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à chaque fois pour chacune d'entre elles à remanier les choses en fonction du contexte sanitaire. Et ça, c'est vrai que ça prend du temps. Et ça finit par être relativement lourd. Mais alors je pense quand même par exemple aux actions avec les scolaires. Bon là c'est sûr que ça a été laborieux, ça a été pénible, parce que les jeunes, les enfants n'ont pas pu, hein. Enfin ces séances au cinéma ont été régulièrement annulé, reporté. Ça, je pense que ça a été l'impact le plus fort, le plus dommageable.
Sur l'éducation à l'image.
D'accord, de ce point de vue-là, puisque école et cinéma, collège au cinéma, qui sont des opérations nationales et qui ont ensuite des déclinaisons sur les territoires avec des coordinations locales. Nous, on coordonne donc école et cinéma, collège au cinéma, qui consiste à présenter 3 films par année scolaire, hein, par trimestre. Aux classes qui vont au cinéma, ensuite il y a une exploitation pédagogique et ces séances ont été durement touchées.
Et ça reprend à la rentrée, ça, dans les meilleures prévisions, on dit?
Oui, ça va reprendre à la rentrée et on a quand même réussi à rattraper un petit quelque chose sur le troisième trimestre dernier. On a pu on a proposé des compensations entre guillemets, on a organisé des ateliers dans les collèges, dans les écoles, à une échelle qu'on n'avait pas mise en place auparavant. Donc on a fait ce qu'on pouvait pour pallier à la situation.
Et alors après, du coup, il y a les 37e rencontres cinéma, hein, ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors comment on organise des rencontres cinéma? Nous, on avait pour habitude de savoir, vous allez repérer quelques films à Cannes ou sur d'autres festivals de cinéma. Et bien là, cette année, du coup, pas de festival réellement. Et comment ça se passe?
Oui, alors, rappelons quand même que le Festival de Cannes a eu lieu, mais au mois de juillet.
Il a eu lieu pour organiser.
Par rapport à notre timing, effectivement, c'était pas possible au mois de juillet d'aller à Cannes pour rechercher des films. Donc, on a fonctionné avec les très nombreux films que l'on reçoit dans tous les formats, le court, le long, le documentaire, la fiction. Et puis on s'est montré à l'affût ensuite auprès des distributeurs ou dans d'autres festivals qui ne sont pas le Festival de Cannes, de l'actualité des productions et des sorties à venir.
D'accord.
Et on s'est débrouillé de cette manière-là.
Alors c'est là ce qui montre un peu aussi le rayonnement de Gentoo Cinéma, suivant le nombre de copies de films, le nombre de films qui vous sont envoyés pour faire cette sélection.
Oui, alors bon, pour en donner un ordre d'idée, on reçoit plusieurs centaines de films chaque année, et cette année n'a pas fait exception à la règle. Puisque dans le fond, je n'ai pas regardé ça en détail, mais finalement, l'année 2020 a été sinistrée de ce point de vue-là, du point de vue de la diffusion de plein de films qui n'ont pas pu trouver de place pour sortir en salle ou pour être en amont, diffusés dans les festivals. Donc finalement, on manquait pas de films. On manquait pas de films.
D'accord. Et du temps, du coup, pour regarder tous ces films, pour arriver à choisir le pur jus pour cette programmation.
Oui, voilà. Alors, on dira sobrement qu'on court toujours après le temps.
J'imagine le temps qu'il faut pour regarder les centaines de films, c'est énorme.
Oui, il y a ça. Et puis, comme je le disais, malgré tout, ce contexte depuis des mois et des mois font que, bon, en fait, ça rajoute du boulot en permanence. Donc c'est vrai que... objectivement, ça nous a un tout petit peu pénalisé sur le temps à consacrer au visionnement des films pour cette 37e édition.
Oui, parce qu'il y avait les incertitudes après d'organisation. Ça, je veux bien qu'on en parle un petit peu après. Restons un peu dans cette histoire de programmation. Et parlons de l'invité d'honneur que vous avez choisi cette année, Marie-Claude Treilloux.
Oui.
Pourquoi ce choix ?
Marie-Claude Treilloux, c'est une réalisatrice qui a à peu près 70 ans, un peu plus. C'est quelqu'un avec qui on avait pris rendez-vous en 2020, déjà. Mm-hmm. Donc on a reporté, en quelque sorte, notre rendez-vous à cette année. C'est une réalisatrice relativement méconnue du grand public.
J'avoue, je ne la connaissais pas.
Mais qui, en revanche, est tout à fait reconnue de ses pairs par une filmographie qui a démarré il y a à peu près une quarantaine d'années. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un auquel on pensait depuis un moment. Marie-Claude, qui plus est une réalisatrice installée dans la région. Elle a patienté jusqu'à cette année pour qu'on puisse se retrouver autour de sa programmation. C'est quelqu'un qui navigue entre le cinéma de fiction et le cinéma documentaire, qui a fait ses classes, qui a appris le cinéma en autodidacte et aux côtés notamment d'un grand monsieur quand même du cinéma français, un petit peu, je qualifierais un petit peu de franc-tireur, un peu hors système, Paul Vecchiali. Donc ça nous ramène aux années 70. Parce qu'elle n'a pas du tout fait d'école, elle a appris comme ça, et elle a démarré en fait son premier film, et c'est déjà assez notable, avec un long métrage, n'est pas passé par la case court-métrage. Ce film qui s'appelle Simone Barbès ou la Vertu, 79, qui a marqué les esprits pour ceux qui l'ont vu à l'époque, et puis qui a lancé donc cette filmographie, cette œuvre vraiment en dehors des sentiers battus, puisque bon, je disais fiction, documentaire, en dehors des modes, qui a Simone Barbès ou la Vertu, c'est la nuit parisienne, et quelques années plus tard, elle a fait des films dans l'Aude, dans sa région natale, des films dont on peut considérer en apparence qu'ils n'ont pas grand-chose à voir. Elle a donc avancé comme ça, je dirais, dans une liberté certaine, dans un esprit d'indépendance évident, et donc je crois que c'est une œuvre assez hybride, éclectique, et c'est tout ce qui fait le sel un peu de cette proposition.
Elle propose un conte occitan aussi.
Oui, elle propose un film qui s'appelle
L'âne
qui a bu la lune, et qui est écrit à partir de sur la base effectivement de contes occitans qu'elle relie entre eux, et ça fait un long métrage qu'elle a fait à la fin des années 80, d'ailleurs produit à l'époque par quelqu'un que nous connaissons bien à Gindou, qui est Edi Cavagnac, puisque c'est un ancien président de Gindou Cinéma, aujourd'hui président d'honneur. Et donc voilà un film complètement atypique, inclassable. Même moi, j'avoue que quand je l'ai découvert, j'avais une petite appréhension. Je me demandais vraiment ce que j'allais découvrir. Et c'est un film qui m'a complètement, enfin, j'ai regardé avec pendant quelques minutes avec un œil un peu perplexe, et puis qui m'a emporté par effectivement son état d'esprit, le côté un petit peu farce dans ce film, et en même temps un très grand sérieux, une très grande application dans le travail de cinéma. Et c'est vraiment un film que bon, moi qui me réjouit de pouvoir montrer, sachant que c'est un film extrêmement rare, comme d'autres films de Marie-Claude, mais celui-ci peut-être encore plus que d'autres. Donc c'est une chance, et c'est ça aussi cette possibilité qu'on a dans un festival, de pouvoir faire revivre des films qu'on a un petit peu oubliés, et donc très grand plaisir à se dire qu'on va pouvoir le partager avec notre public.
Alors ça, de manière générale, les films de Marie-Claude Triou sont à voir le matin, dans la salle de l'Arsenic, à 10h30. Mmh. C'est pour tout le cas, toute sa rétrospective. Et le premier jour aussi, hein, c'est une soirée d'ouverture en général autour de ces deux films.
Oui, voilà, on va démarrer avec elle donc le samedi soir, 21, avec un premier long métrage qui s'appelle Le Jour des Rois, qui date lui de 91. Un film étonnant dans son casting, avec une première scène assez mémorable dans laquelle on verra Michel Galabru, c'est assez rare sur les écrans de Jindou, et dans lequel on a ensuite trois grandes dames du cinéma, Micheline Press, Paulette Dubost et Daniel Darieux, hein, en 90. C'est quand même un casting un petit peu à contre-courant, mais c'est vraiment très 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 beau.
Alors ça, voilà pour Marie-Claude Triou. Après, ensuite, il y a les vagabondages cinématographiques. Alors là, pareil, une vaste programmation, hein, on va traverser encore pas mal de pays, pas mal de cultures et pas mal d'idées aussi. Hein.
Oui, complètement. Mais là, je sais pas très bien effectivement comment le... Quel fil tirer. Voilà. Bon, il y a des par exemple, il y a des gens qu'on va retrouver, comme la réalisatrice Simone Bitton, qu'il avait avec son dernier film s'appelle Ziara. Simone Bitton est une documentariste, était venue il y a je crois une quinzaine d'années à Jindou. Et puis alors Ziara, pour le dire en deux mots, c'est une enquête, et je trouve le film vraiment passionnant et très important, parce que c'est une enquête au Maroc aujourd'hui, où elle va enquêter sur les lieux de la mémoire juive, les synagogues, les cimetières, la population juive au Maroc. Je pense qu'elle demeure dans un film proportion, ça c'est l'histoire, hein, et néanmoins ces lieux eux sont préservés, sont gardés par des gardiens musulmans, et c'est ça qui est assez fort dans ce film. On a toutes les générations de cinéastes. Si je pense à dimanche, on accueillera Emma Benestan, c'était une jeune réalisatrice, son premier long métrage s'appelle Fragile, ça sortira dans la foulée, ça sortira le 25, et elle sera là pour présenter ce film qui est une fiction, un film tourné à 7, je dirais au soleil, une histoire d'amour entre deux jeunes gens avec je dirais beaucoup de pêche et un regard très intéressant, puisque le film s'appelle Fragile, et le personnage fragile, bah c'est le garçon plutôt que la fille, pour le dire très simplement.
Oui, ça casse un peu les codes. C'est un peu le but aussi.
Voilà, oui, complètement, et sans qu'on s'en rende compte finalement. On y adhère très très spontanément, parce qu'on est pris par le récit, on est pris par l'histoire. Il y a beaucoup d'humour aussi dans le film.
Mais ça, c'est un peu un des fils conducteurs quand même de ces vagabondages. On parle souvent d'une minorité qui, mais avec de grandes idées en fait, de plein de minorités qui existent à travers la planète.
Hein. Oui, alors est-ce qu'on peut dire
enfin, minorité en nombre, je sais pas comment exprimer ça.
Moi je dirais que c'est moi je le ramènerais davantage à un regard toujours un peu incisif, toujours un peu de biais sur la société, qui fait que qu'effectivement par exemple le soir on présente Fragile, on présente ensuite un film d'arabe et Tarzan Nasser, qui sont réalisateurs palestiniens, ça s'appelle Gaza, mon amour. C'est un film une fiction, hein, qui se passe à Gaza. La situation de Gaza nous est rapportée en toile de fond, mais c'est d'abord une histoire d'amour. Donc c'est cette volonté absolue de pouvoir, je dirais, représenter toutes les histoires dans tous les endroits du monde, même là où on se dirait qu'effectivement.
des lieux, des territoires, des pays dont on parle toujours un petit peu sous le même prisme. Et que c'est important avec le cinéma de prendre le temps de partager une humanité commune, hein, pour le dire aussi assez simplement. Après, dans cette programmation, quand on, bon, ensuite, hein, avec un tout petit peu de recul, mais a posteriori, bon, on s'aperçoit qu'il y a énormément de films. Je dirais qu'il y a un petit travail à la question du rapport de l'homme à la nature, hein, l'homme avec un grand H, hein, de cette question d'une terre habitable ou pas.
Oui, bah, en ce moment, en plus, c'est vraiment un fait d'actualité, ça, voilà. Avec le rapport du GIEC qui est tombé il n'y a pas longtemps.
Ouais. Et donc ça, toujours avec un regard assez singulier, et là, sous des latitudes vraiment très différentes. Mais c'est vrai qu'on le retrouve dans plusieurs films.
Le Sénégal est à l'honneur aussi cette année.
Oui, alors ça c'est en lien avec nos amis de la Cinémathèque de Toulouse, des archives françaises du film du CNC. On avait en tête finalement de rebondir sur l'année, je crois que c'était Africa 2020. Alors du coup on est resté un peu avec cette idée pour cette édition et en même temps parler du cinéma africain c'est bien trop vaste pour notre programmation, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de s'intéresser à une cinématographie. Ça reste très partiel puisque ce sont 6 séances consacrées donc au cinéma sénégalais, du coup qu'on a appelé Caméra Sénégalaise, et là ce qui nous plaît c'est que finalement malgré tout en 6 séances on va pouvoir retracer un petit peu toute cette histoire à travers différentes générations entre les pionniers et je dirais et la jeune génération actuelle, et ça me réjouit dans un programme notamment de court-métrage qui est une carte blanche au centre Yenenga à Dakar, qui est un centre culturel dédié à l'image, au cinéma, hein, qui a été largement initié par le cinéaste Alain Gomis et qui sera là et qui nous ont donc concocté un programme de court-métrage où là on a que des jeunes réalisatrices, jeunes réalisateurs. Je pense que c'est un programme qui plaira beaucoup et dont on voit que là, il y a une vitalité, une envie de cinéma très forte, en l'occurrence au Sénégal.
J'ai toujours pensé que c'était une force à Jindou, les petits courts-métrages comme ça, il y a des pépites à chaque fois.
Bah oui. Et puis, par exemple, dans cette carte blanche, il y a un film de Mamadou Dia et un court métrage s'appelle Samedi Cinéma qui doit avoir 3-4 ans et Mamadou Dia on va présenter son premier long métrage mais qui est sorti dans les salles là au printemps, qui s'appelle Le Père de Nafi. Et donc ceci pour dire que effectivement le court métrage c'est souvent les premières armes avant de pouvoir aller plus loin, et tout en rappelant que en soi la durée d'un film pour moi importe peu et qu'un court métrage c'est un film en soi qui tient debout tout seul et qui peut nous procurer une émotion immense à l'égal de long métrage et par moi même bien au-delà.
Oui, des fois, en moins de temps, on arrive à passer un message plus fort, j'ai l'impression.
Oui.
Sur certains courts-métrages, j'ai déjà vu certains, c'est tellement efficace.
Par exemple, je pense à un cinéaste qui s'appelle Stéphane Castan, bon, qui malheureusement ne pourra pas être présent pour présenter son dernier film, qui était un film qui s'appelle Final, un court-métrage qu'on présentera en soirée de clôture, ce sera le premier film de la soirée du 28. Et curieusement, je revoyais ça l'autre jour, là, quand je voyais la filmographie de Stéphane, c'est quelqu'un qui je pense, une cinquantaine d'années, enfin j'ai pas vérifié, mais c'est quelqu'un qui fait des films depuis des années, plutôt, et qui tourne bien hein, dans le circuit justement des festivals et du court-métrage, mais pour l'instant il n'y a pas de long-métrage de sa part, et finalement je me dis, bon, bah, après tout, c'est pas si grave si lui s'y retrouve, en termes de création, et puis aussi davantage hein, pour vivre de son art. Quand on voit un film comme Final qui est un film de 30 minutes, bien sûr que moi j'aimerais que ça puisse durer plus longtemps, mais ça me va amplement, et c'est une œuvre très très forte, très très forte.
C'est ton coup de cœur de cette programmation en matière de court-métrage?
Non, je pourrais... Ah, pff, je... pouvais peut-être pas dire ça parce que c'est difficile, parce que déjà qu'on revendique et on y tient absolument que les rencontres cinéma de Jindou sont des rencontres et il n'y a pas de compétition. Mais donc je pourrais, bien sûr, qu'après on a toujours ses préférences et c'est même, enfin c'est naturel.
Des préférences ou des choix que toi tu portes au sein de l'association, aussi, au sein de toute l'équipe qui programme.
Peut-être, peut-être, mais non, après j'ai envie de citer du coup le film d'Henri Camoutou qui s'appelle Dorlis, qui est un second film, hein, mais Dorlis, on le présentera le mardi 24 et mais c'est un film. Enrica a participé à nos résidences d'écriture de La Ruche en 2016 et le scénario qu'elle écrivait, c'est le film qui est devenu Dorlis. Et c'est un film qu'elle a tourné en Martinique, qui est très beau, qui est vraiment très beau, qui est très fort et qui en plus, bon, pour ceux qui vont le découvrir, une résonance certaine avec avec l'actualité, l'actualité récente, mais je peux pas en dire tellement plus parce que sinon ça
spoilait le film.
Ouais, un petit peu, ouais, un petit peu.
Alors, bon, on pourrait parler beaucoup plus longuement hein, de cette programmation. Elle est tellement vaste et riche. J'invite les gens à aller voir le site, hein, Jindou Cinéma. On retrouve le programme, ou à retirer le programme dans certains endroits. Après, traditionnellement, il y a aussi les tchatchs hein, qui ont toujours lieu. Voilà, les discussions tous les jours. Par rapport à mes habitudes d'avant, l'heure a changé. C'est 16h30 maintenant.
Disons qu'on a... au niveau des horaires, on a fait évoluer un petit peu ça parce que pour ceux qui connaissent les habitués, finalement on a enlevé une séance dans la journée pour rendre justement pour fluidifier un petit peu la circulation au niveau du public. Donc ce qui nous finalement c'est pas plus mal, ça nous donne aussi un petit peu plus de latitude pour passer d'un film à l'autre et aussi d'une discussion à l'autre.
Oui, donc, parce que c'est vrai des fois c'était un peu la course d'un film à l'autre, aller manger et tout ça.
Et tout ça est lié au réchauffement climatique.
Alors après, bon ça c'est pour la programmation, maintenant parlons un peu du contexte dans lequel ça s'organise tout ça. On parlait tout à l'heure, juste avant la programmation, d'incertitude. Alors d'incertitude en incertitude, on arrive à ces 37e rencontres. Mais alors je veux bien qu'on en parle un petit peu de cette espèce d'aventure comme ça. Je crois que les dernières nouvelles de préfecture sont encore arrivées il y a quelques jours de ça.
Oui. Alors, du coup, ben, nous, je pense, la plupart des événements culturels, on va être astreints au pass sanitaire. On n'a pas tellement d'autres choix si on veut que l'événement puisse se tenir. Alors bien sûr, donc le pass sanitaire, c'est bon à nous, je dirais, de le mettre en place de la manière la plus qui soit la, je sais pas,
la plus souple possible.
La plus souple possible, enfin en tout cas en bonne intelligence. Sachant que Jindou, et c'est ça aussi qui fait sa force, qui fait son charme, c'est un lieu ouvert, par définition. Notamment, bon, le soir, à plus forte raison, ce sont des séances de cinéma en plein air, donc il est absolument pas question de clôturer quoi que ce soit. Donc, mais de, effectivement, donner des consignes au niveau de ce pass, et donner la possibilité au public de se faire tester.
Sur place?
Sur place pendant la semaine du festival. Donc comme tu le disais, c'est bon, tout ça est très récent, donc au moment où je parle, c'est quasiment validé pour permettre des tests du dimanche 22 au vendredi 27. Il nous reste le 21 et le 28. Il faut qu'on trouve une solution, mais c'est comme ça qu'on va avancer.
Il est plus facile d'avoir quelqu'un pour tester un dimanche qu'un samedi.
Oui, alors en fait du dimanche au vendredi seront les pompiers.
D'accord, ok.
Mais pas dispo le samedi, pas dispo les deux samedis, donc bon, on est en train de chercher une solution complémentaire pour assurer ces tests, parce que je crois que c'est ça aussi, enfin là très pratiquement, c'est très important de pouvoir proposer ça.
Oui, parce que sinon, après, concrètement, c'est du côté de Casal, et c'est... on est dans le monde rural, hein, on n'est pas dans une grande ville, c'est une petite pharmacie.
Voilà.
C'est une logistique qui est complètement différente, qu'il faut penser pour aussi.
Oui, sachant que les tests, je crois que c'est je passe ça sous les yeux, mais c'est 72 heures. Hein, donc, pour ceux qui resteraient plusieurs jours, il faudra...
En faire plusieurs.
Il faudra en faire plusieurs.
Je trouve que c'est une belle façon de rendre les gens responsables. Plutôt que d'imposer quelque chose, on n'infantilise pas, on rend les gens responsables.
Ah bah bien sûr,
on clôture pas, mais on teste.
Ça c'est surtout bon, cette infantilisation, on a tellement souffert et encore. sur la gestion au plus haut niveau de cette crise sanitaire. Mais ensuite, bon, après, faut le dire aussi, hein, on travaille dans un échange avec la préfecture, bon, de la manière la plus constructive possible, hein, avec l'ARS. Bon, c'est pas évident parce que eux-mêmes sont, je dirais, affairés. Mais on y arrive.
Oui, la preuve en est. On verra, on va pouvoir voir tout ça dès samedi.
Voilà.
Des choses à rajouter, Sébastien, pour...
Je voudrais juste, par rapport à la programmation, celle-là, je l'ai sous les yeux, qu'on sera assez heureux aussi de retrouver Arnaud et Jean-Marie Larieux. Justement, ça fait un... Bah, tu me demandais, bon, qu'est-ce que ça fait après une année très bizarre, ou bon, l'an dernier, pour ainsi dire, pas de festival. Bon, bah, en fait, le dernier festival, c'était il y a 2 ans, disons-le. Nos invités, c'était les frères Larieux, et qui vont revenir pour ce film qui s'appelle Tralala, qui est un film réjouissant, une comédie où on va retrouver notamment Mathieu Amalric en très grande forme. Un film qu'ils ont tourné l'été dernier à Lourdes. Et c'est un film en partie masqué, puisqu'ils ont utilisé ça dans l'intrigue elle-même. Et c'est vrai que Jean-Marie Larieux me disait que c'était plutôt sympa pour eux, parce que finalement, quand ils étaient à Jindou il y a 2 ans, ils étaient en écriture encore, en fin d'écriture de ce film, qu'ils viennent nous présenter cette année, qui fait résonance avec tout ce qu'on a vécu dans l'intervalle. Donc pour les gens qui ne pourraient venir qu'une fois et qui se demanderaient quel soir venir, enfin bon, en tout cas, si vous aimez les films des frères Larieux, bah, faut absolument venir le mercredi 25. Ils seront là et on fera une tchatch en suivant, d'ailleurs, puisque ils ne peuvent pas rester longtemps.
D'accord, ok.
Ça fera une grande soirée avec eux.
D'accord, super. Alors, si il y a une chose quand même, tu as parlé de l'écriture sur place, on oublie de parler de La Ruche.
Oui.
On pourra rencontrer ces jeunes futurs réalisateurs, hein, voilà, tout au long de la semaine.
C'est ça.
Sont dans ce dispositif.
Voilà, La Ruche étant un dispositif d'accompagnement à l'écriture, donc qui passe par le biais de résidences d'écriture, qui s'adresse à 8 jeunes autrices auteurs chaque année et qui ont la particularité, le point commun d'être autodidactes. Et donc là, je crois que ce sera la 8e promo.
Je sais pas, de tête, là, je sais.
Qu'on va retrouver donc en fin de semaine et qui vont faire donc leur première résidence d'écriture avec nous avant une deuxième à Bordeaux, une troisième à Lyon, Villeurbanne. Mais bien sûr, ils seront là toute la semaine et avec même pour l'un d'entre eux qui participera à une rencontre à la librairie, puisqu'il vient lui-même pour adapter sous la forme d'un court-métrage une nouvelle qu'il a écrite l'an dernier pendant le confinement.
D'accord.
Voilà, il s'appelle Tom Dumo.
Voilà, t'as parlé en plus de la librairie. Le petit clin d'œil à la librairie des Tartineries de Saran est là. C'est quand même une super librairie. J'invite tous les auditeurs aussi, pareil, ça vaut le coup de se déplacer à Jindou. Et c'est une super librairie, ces gens-là.
Ah oui, complètement.
C'est une belle équipe.
Librairie de Saran, qui est dans le Gers, hein, qui nous vient, Saran dans le Gers, et qui se déplace pendant la semaine des rencontres pour, proposer, une superbe librairie.
Très bien. Bon, et bien, moi, j'ai hâte d'être à samedi pour démarrer tout ça. Et puis voilà.
Hâte de vous retrouver tous et tous.
Merci beaucoup, Sébastien.
Merci à vous.